histoire surprenante des contes de fées, Jean-Louis Lahaye.
En avant les amis, nous partons pour le pays imaginaire.
Quand on a peur, on crie, on pleure, sorcière, sorcière.
Il y avait des loups dehors, il y avait des loups dehors, des grands loups carnivores.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre série « L'histoire surprenante des contes de fées ». Installez-vous bien confortablement dans votre voiture ou sur votre canapé. Allumez un feu ou mettez les sièges chauffants. Prenez vos enfants ou petits-enfants sur vos genoux et laissez-vous bercer par ces magnifiques histoires qui ont marqué notre enfance. Et pour les plus grands, en deuxième partie d'émission, nous vous dévoilerons la face cachée de ces contes de fées. Amour, aventure, magie, bien sûr. Mais aussi cannibalisme, meurtre, suicide. Avec nos experts, nous découvrirons les versions originales de ces contes et tous leurs secrets. Aujourd'hui, je vous emmène en Amérique. Non pas l'Amérique des néons, des routes de briques jaunes ou des étoiles sur les trottoirs, non. J'aimerais vous ramener à l'Amérique sauvage, vierge, telle qu'elle était quand on l'appelait encore le Nouveau Monde. J'aimerais vous parler d'une jeune femme et d'un peuple dont on disait qu'ils avaient la peau rouge. Avaient-ils vraiment la peau rouge? Ou se peignaient-ils le corps avec de l'argile rouge? On dit que les préjugés nous remplissent les yeux de nuages. C'est en tout cas ce qu'auraient dit Pocahontas et John Smith. Deux continents, deux cultures, une rencontre, une guerre et une Amérindienne amoureuse qui sauve la vie d'un colon anglais. Cette légende indienne a traversé les siècles et a inspiré bon nombre d'écrivains, de cinéastes. Elle est devenue un des mythes fondateurs de la culture américaine avant de devenir le dessin animé bien connu des studios Disney. Pourtant, derrière la légende, se cache une toute autre vérité. Celle d'une femme au destin tragique, tiraillée entre deux peuples qui se sont déchirés. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Pocahontas. Il était une fois sur les rivages inexplorés de l'ancienne Virginie, une jeune indienne qui s'appelait Pocahontas. Pocahontas était la fille aînée du grand chef Powhatan, elle était donc promise à de grands desseins. Fiancée au grand et très sérieux guerrier Kokuam, sa vie auprès des siens semblait toute tracée. Mais la belle Pocahontas aspirait à une toute autre vie. Aussi libre que le vent et aussi fougueuse que la rivière, devait-elle se laisser emporter par la sagesse d'une vie toute tracée ou lutter contre le courant en quête d'un plus grand destin?
Ce que je préfère dans les rivières, c'est que printemps, été ou hiver, elles changent toujours d'humeur et de couleur. Mais combien de cœurs dans la nature ont rêvé d'aventure en laissant fuir les années sans se demander au détour de la rivière, sera-t-il au détour de la rivière? Cet inconnu viendra au détour de la rivière. Pour moi, rien que pour moi.
De l'autre côté de l'océan, le capitaine John Smith larguait les amarres de son navire et quittait les côtes anglaises pour aller explorer le Nouveau Monde, promesse de nouveaux territoires et de richesses. Sous les ordres de l'affreux gouverneur Radcliffe, avide d'or et de pouvoir, John Smith aspirait quant à lui à une nouvelle vie, riche en aventures. Notre histoire commence en 1607, quand le bateau de John Smith atteignit le rivage de l'ancienne colonie Jamestown après des semaines d'une traversée difficile.
« À vos pelles !»
ordonna le gouverneur Radcliffe en posant le pied sur la terre encore fertile du nouveau continent.
« Coupez les arbres, utilisez les explosifs, montez les palissades du fort, dressez le campement et surtout, creusez la terre et trouvez-moi de l'or !»«
Mais gouverneur et les Indiens, ne devons-nous pas nous assurer qu'ils ne sont pas hostiles ?»«
Je ne vois pas de sauvages ici, espèce d'idiot !»
Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils ne sont pas là,
s'écria le charismatique capitaine John Smith.
Gouverneur, Laissez-moi partir en repérage. Et puis, s'il y a des Indiens dans les parages, eh bien, je les trouverai.
Bien, capitaine,
répondit Radcliffe.
Et les autres au travail, alors trouvez mon or. Je veux dire notre or.
Tout l'or de Cortés, l'argent de Pissarro ne seront que fadaises demain pour les héros et feront grise mine. Comparé à l'or, l'or qui dort dans ces mines d'or, déterrons le trésor. Pelle, pioche, remplissons-nous les poches, pique, pioche, creusons la roche à coups de pique, de pioche. Ce feu qui crépite en mille et une pépites me donne la fièvre de l'or. Mon cœur s'illumine, mine, mine.
Pendant ce temps, John Smith s'enfonçait dans la forêt, à la recherche de possibles autochtones et impatient de découvrir ce nouveau continent. Pendant des heures, il savoura chaque foulée dans cette nature luxuriante et vierge de toute construction. Il se reput de chaque bouffée d'air pur. Il prêta attention à chaque son, qu'il soit de l'oiseau, des arbres balayés par le vent ou des chutes d'eau s'écrasant dans le ventre de la terre. Mais ce qu'il ne vit pas, c'est qu'il était suivi. Pocahontas avait aperçu les étranges formes blanches gonflées par le vent qui étaient arrivées de l'océan. Elle avait vu les colons en sortir par d'étranges canoës. Elle les avait entendus installer leurs tentes, puis éventrer sa terre dans un bruit assourdissant. Elle avait vu enfin un beau jeune homme quitter le campement des hommes et elle avait suivi sa progression jusque dans la forêt, puis jusqu'aux chutes d'eau qui bordaient le territoire indien. Quelle étrange allure! Il avait des cheveux couleur de maïs et il était coiffé d'un drôle de chapeau brillant. Trop curieuse, Pocahontas baissa sa garde et s'approcha, d'un peu trop près.
« Les mains en l'air !»
s'écria John Smith, se retournant d'un coup, le fusil pointé sur elle. Mais John Smith baissa son arme, car là, devant lui, dans la brume d'une cascade, se tenait la plus belle personne qui lui ait été donnée de voir. Pocahontas, droite, immobile, calme, fière, tellement belle avec ses cheveux noirs caressés par le vent. John s'approcha doucement, de peur d'effaroucher la jolie indienne. Il tendit la main en signe de paix.
« Qui es-tu ? »
« Oh, évidemment, tu ne comprends pas ma langue. » C'est alors que la magie se produisit. Les esprits de la forêt qui suivaient de près cette étrange rencontre se mirent à tourbillonner autour de John Smith et de Pocahontas. Pocahontas ferma longuement les yeux, puis elle les rouvrit et répondit « dans la langue de l'étranger.
Je m'appelle Pocahontas.
Et moi, c'est John Smith,
répondit le colon fasciné et ému. C'est ainsi que Pocahontas et John Smith firent connaissance et entrèrent dans la légende. Pendant des semaines, Pocahontas et John se retrouvèrent à l'insu de leur peuple et apprirent à se connaître. Pocahontas apprenait à John à écouter les esprits de la forêt, à respecter la vie, à apprécier ce que la nature donne. John prêchait les bienfaits de la civilisation, des sciences, de l'architecture. « Dans mon pays, nous avons des routes, des ponts, des maisons plus grandes que vos arbres. »«
Ah, j'aimerais beaucoup voir cela. »«
Oh, mais tu les verras. Nous allons les construire ici, vous montrer ce qu'est la civilisation. »«
Mais nous sommes déjà très heureux comme ça. »«
Tu dis ça parce que tu ignores de quoi je parle. Tu sais, nous les colons... » avons beaucoup fait pour les sauvages à travers le monde.
Des sauvages ? Est-ce ainsi que tu nous vois ?
Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. De appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur.
Petit à petit, Pocahontas sut ouvrir les yeux de John. Plus tard, elle lui apprit également que ce que les colons appelaient de l'or ne poussait pas sur leur terre.
Ainsi, il n'y a pas d'or, s'exclama John Smith avec ironie. «
Toute cette expédition a été montée pour rien.
Eh bien, Radcliffe ne va pas apprécier.
Tu dois le convaincre de rentrer chez lui avec ses hommes. Il saccage notre région, il fait peur aux animaux et à mon peuple.
Mais John eut beau raisonner le gouverneur, l'affreux Radcliffe ne voulut rien entendre, persuadé que les Indiens cachaient l'or afin de le garder pour eux.
« Ce sont des voleurs et des fourbes. Ils ont notre or et le cachent. Soldats, soldats, je vous ordonne de vous préparer. Attaquons les sauvages et récupérons notre or !»
Et pendant que l'homme blanc nettoyait ses fusils et lustrait ses armures, l'homme rouge se préparait lui aussi au combat. Le grand chef Powhatan avait fait appel à tous les guerriers de la région. Aidés par les femmes, les hommes se peignaient le visage en rouge et affûtaient leurs lances et leurs flèches. Il était temps de chasser cet envahisseur venu de la mer et qui détruisait leur territoire. La bataille était imminente, mais ce fut la dernière rencontre secrète de John et Pocahontas qui mit le feu aux poudres. Kokoum, le fiancé de Pocahontas, surprit le couple en train d'échanger un premier baiser. Jaloux, il se jeta sur John avec son poignard. Le colon eut tout juste le temps de dégainer son arme. Le coup partit et Kokoum s'effondra. Alerté par le bruit, des guerriers indiens accoururent. John fut capturé et amené au village indien. Pocahontas était au désespoir.
Mes frères, s'écria Powhatan, voici l'homme blanc qui a lâchement exécuté notre grand guerrier Kokoum. Nous allons l'exécuter au petit matin, puis nous les détruirons tous. Ils sont le mal absolu. Leur bâton de feu est dangereux, et il nous faut protéger nos femmes, nos enfants et notre mère nature. Allons-y, mes frères ! Soldats !
Hurlait de son côté le gouverneur Radcliffe.
Les sauvages ont capturé John Smith, et vous voyez, ces sauvages sont mauvais, sournois. Alors battons le fer tant qu'il est encore chaud, allons libérer le capitaine Smith et détruisons-les tous. Marchons, soldats.
Tous des sauvages,
même pas des êtres humains.
Des sauvages,
chassons ces païens, puisqu'ils ne sont pas blancs, ils sont forcément méchants. Battons les tambours de cœur.
Tous des sauvages.
Commençons le carnage, battons les tambours de guerre.
Nous avions raison, l'homme blanc est un démon. Le seul dieu qu'il adore encore, c'est l'or.
Dessous sa peau de lisse, ses vices se glissent.
Il sème la mort sans remords.
Tous des sauvages, même pas des êtres humains. Des sauvages,
des tueurs sans cœur.
Ils ne sont pas comme nous. Méfions-nous de ces voyous.
Battons les tambours de guerre.
Tous des sauvages, des sauvages.
Qu'ils aillent tous en enfer.
Tous sont des tambours de guerre.
Soldats, tous avec moi.
Des sauvages, des sauvages.
L'avenir est dans vos mains.
Des sauvages, des sauvages. Qu'ils aillent tous en enfer.
Les deux armées marchaient l'une vers l'autre et se firent enfin face sur la plaine. Les hommes de Powhatan poussèrent John devant les premières lignes de leurs guerriers afin que les soldats blancs puissent être témoins de son sort. Powhatan leva sa masse au-dessus de la tête de John et tout le monde retint son souffle. Mais au moment où le grand chef allait frapper, Pocahontas surgit de la foule des guerriers et se jeta sur John afin de le protéger. Un vent de surprise se leva sur les deux armées qui assistaient à la scène.
« Non, père. Si vous tuez cet homme, vous devrez me tuer aussi !»
s'écria Pocahontas.
« Va-t'en, ma fille. Ta présence ici te déshonore. Pourquoi protèges-tu cet homme? Il ne nous a apporté que des ennuis. »
« Père, je connais cet homme. Il est bon et c'est l'homme que j'ai choisi. Regarde tous ces hommes autour de nous. Voilà où conduit le chemin de la haine et de la violence. » Voici celui que je veux choisir. À toi de choisir le tien.
Powhatan était un homme sage. Il regarda autour de lui, flèches et fusils pointés les uns vers les autres. Il ferma les yeux et écouta les esprits de la forêt. Puis il posa son arme.
Ma fille a raison, mes frères. Nous sommes tous animés par la colère, mais elle seule parle de courage, d'amour et de fraternité.
À compter de ce jour, s'il faut voler des vies, cela ne commencera pas avec moi. Libérez le prisonnier.
Des deux côtés de la plaine, soldats et guerriers baissèrent à leur tour leurs armes en signe de paix. Mais Radcliffe n'avait pas dit son dernier mot. Il leva son arme et visa le grand chef Powhatan. Il tira. Mais c'est John Smith qui fut touché, en tentant de protéger le père de Pocahontas. Il tomba à terre. Furieux, les colons se ruèrent sur Radcliffe et le ligotèrent. Mais il était trop tard. John était bel et bien blessé et gisait sur le sol, inconscient. À présent, seuls les médecins blancs pourraient faire quelque chose pour lui. John Smith fut installé dans un brancard de fortune et on décida de stopper l'expédition et de ramener tous les hommes en Angleterre au plus vite. Quelques heures plus tard, sur la plage de l'embarquement, les colons installèrent John dans une barque afin de regagner le navire.
« Attendez, » souffla John. « Elle va venir, je veux lui dire au revoir. »
C'est alors qu'à l'orée de la forêt, on aperçut la silhouette de Pocahontas. Puis d'autres silhouettes se dessinèrent autour d'elle. Powhatan et les siens déposèrent des paniers remplis de vivres pour la traversée des colons. Puis le grand chef retira sa cape de guerrier et la déposa sur John pour le protéger du froid pendant le voyage.
« Vous serez toujours nos frères et vous serez toujours bienvenus parmi nous, » annonça-t-il aux colons.
Pocahontas se pencha à son tour vers John.
« Viens avec moi, Pocahontas. »«
Je ne peux pas. Les miens ont besoin de moi. »«
Mais je ne peux pas te quitter. »«
Mais tu ne me quittes pas. Je serai toujours avec toi, quoi qu'il arrive. »
Le bateau mit les voiles et prit doucement le large. Déjà, il n'était plus qu'un minuscule nuage sur l'horizon. Du haut de la falaise, Pocahontas adressa un dernier adieu à John. Et tristement, les esprits de la forêt emportèrent ces mots d'adieu. Ils tourbillonnèrent au-dessus de la mer dans une multitude de feuilles de toutes les couleurs, jusqu'au lit de John, et se posèrent sur celui qu'elle n'oublierait jamais.
L'interview vérité.
Nous venons d'entendre la magnifique histoire d'amour entre Pocahontas et John Smith, telle qu'elle a été revisitée par les studios Disney en 1995. J'aimerais maintenant accueillir notre experte en contes qui va nous en dire un petit peu plus sur cette légende indienne. Bonjour Gaëlle Rucois.
Bonjour Jean-Louis.
Gaëlle, vous êtes diplômée de l'école de journalisme IEX. Aujourd'hui, vous êtes en charge de la SBL de Livre en Livre et depuis une dizaine d'années, vous êtes aussi conteuse pour des enfants défavorisés. Alors Pocahontas, ce n'est pas vraiment un conte à l'origine. Nous venons d'entendre cette adaptation vraiment très libre de Disney, mais il y a tout de même une partie de cette légende qui est vraiment inspirée de faits réels, non ?
Oui, alors effectivement, Pocahontas a vraiment existé. Et on peut dire qu'elle est un des personnages fondateurs de l'histoire et de la culture américaine. Alors sa vie est à l'origine de nombreuses légendes, adaptations littéraires, cinématographiques, mais qui sont malheureusement très romancées, très édulcorées. Et l'image qu'on retient d'elle n'est donc pas tout à fait juste. Par exemple, dans l'histoire que vous venez de nous raconter, qui est donc effectivement inspirée des studios Disney, la colonisation y est clairement dénoncée. Mais on fait quand même l'impasse sur le destin de cette héroïne, qui est en fait beaucoup plus tragique. Bon, alors on comprend pourquoi, évidemment, on est chez Mickey.
Alors oui, justement, on dit que ça a quand même fait polémique à la sortie du dessin animé.
Absolument, le dessin animé a même été considéré comme lâche et non conforme à l'histoire originale.
Mais alors qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est romancé dans cette histoire ?
Alors, ce qui est vrai d'abord, c'est que Pocahontas, c'est l'une des filles du chef de la grande tribu des Powhatan. C'est sa fille préférée et elle est promise à un valeureux guerrier indien, Kokwom. Alors, la croyance voudrait qu'elle ait même été mariée plus tard avec lui et qu'ils aient eu un enfant, mais ça, on n'a pas pu le vérifier. Son vrai nom est Matoaka, ce qui signifie « petite plume de neige ».
C'est mignon.
Mais elle est en effet surnommée Pocahontas, petite impudique à cause de son caractère espiègle. Maintenant, ce qui est plus éloigné de la vérité, c'est qu'en fait, Pocahontas est née vers 1595. En fait, elle a que 12-13 ans lorsque John Smith débarque à Jamestown en Virginie.
Ah oui, donc c'est une enfant que rencontre John Smith.
Et oui, il est donc très peu probable qu'il y ait eu une histoire d'amour entre eux. Alors selon les archives, John Smith était au début en très bon terme avec la tribu des Powhatan. Il avait même été honoré par le père de Pocahontas, le chef Wahunsunacock. On disait le chef Powhatan pour faire simple.
C'est mieux, hein.
Il passait donc beaucoup de temps parmi le peuple indien et avec Pocahontas. Ils apprenaient leur langue mutuelle, par exemple. Mais dans la culture Powhatan, les enfants sont étroitement surveillés par toute la tribu. Donc il est quand même difficile de croire qu'il y ait pu avoir une idylle entre eux. Alors plus tard, les choses se sont effectivement envenimées entre les Indiens et les colons, et John Smith a bien été capturé par la tribu de Pocahontas. Donc tout ça est vrai dans le dessin animé. En revanche, John Smith a prétendu qu'elle l'aurait sauvé au moment de son exécution. Mais là encore, il existe quand même peu de preuves de ce geste passionné. En fait, on pense que c'est même John Smith qui aurait romancé cet épisode dans ses mémoires pour accroître sa propre légende. C'est un peu le cliché romanesque du sauvetage de l'explorateur par la belle autochtone.
Oui. Donc pas de romance entre Pocahontas et John. En revanche, on raconte que Pocahontas aurait tout de même été mariée à un colon.
Oui, comme je le disais tout à l'heure, petit à petit, les Indiens vont comprendre l'ampleur de la colonisation. Ils voient leur territoire menacé, les tensions grandissent entre les deux camps, et c'est probablement à ce moment aussi que John va être capturé par les Indiens. Quoi qu'il en soit, Pocahontas va aussi être capturé par les Anglais, parce que leur but est d'échanger Pocahontas contre plusieurs prisonniers anglais détenus par son père, le chef Powhatan, et contre des armes que les Powhatan ont volées. Malheureusement, son père va rendre les prisonniers, mais pas les armes. Alors l'échange va pas se faire et pendant une année, Pocahontas va être retenue en otage, contrainte de s'habiller comme une Européenne et d'apprendre l'anglais. Et elle en voudra beaucoup à son père pour l'avoir estimée moins importante que les armes. Finalement, c'est elle qui fera le choix de rester vivre avec les Anglais. Et elle épousera un Anglais, John Rolfe.
Encore un John.
Encore un John. Alors John Rolfe, c'est un homme très pieux. Il tombe fou amoureux d'elle. On est moins sûr de la réciproque. Mais il craint les conséquences morales de son mariage avec une païenne. Il va donc demander au gouverneur l'autorisation d'épouser Pocahontas et de la convertir au christianisme pour, entre guillemets, sauver son âme. Évidemment, pour tout le monde, sauf peut-être pour la principale intéressée, le mariage sert plusieurs intérêts. Pour le père de Pocahontas, il s'agit bien évidemment d'apaiser les tensions. Pour les colons, l'apaisement est bon également pour les échanges commerciaux. Et donc c'est comme ça que Pocahontas se retrouve mariée, chrétienne et mère d'un petit Thomas.
Et finalement, elle mourra très jeune, quand même loin de son pays.
Oui, pour attirer de nouveaux colons et investisseurs en Virginie, Pocahontas est envoyée avec son mari en Angleterre pour promouvoir la région auprès des Européens. Alors on les présente à la cour d'Angleterre et Pocahontas, c'est la princesse du Nouveau Monde, la curiosité exotique. Et surtout, elle est le symbole du triomphe de la civilisation sur les autochtones.
Donc un bel outil de propagande pour pousser les Anglais vers le Nouveau Monde.
Exactement, mais Pocahontas est malheureuse et elle se fait pas au climat anglais. Et le couple décide alors de rentrer en Virginie. Et malheureusement, Pocahontas tombe malade lors de la traversée, sans doute d'une pneumonie ou d'une tuberculose qu'elle a contractée en Angleterre. Le bateau doit faire demi-tour et elle meurt quelques jours plus tard, à l'âge de 22 ans. Elle sera enterrée sur les bords de la Tamise, loin de son pays. Alors John Rolfe, lui, retournera seul en Virginie, où il va se remarier, et il laisse derrière lui leur petit garçon, Thomas, qui reste tout seul en Angleterre.
Bah, dites donc, c'est une triste histoire. On est loin de la version édulcorée de Disney. Merci Gaëlle pour ce terrible éclairage.
Merci Jean-Louis.
La morale de l'histoire.
Pocahontas. Une histoire résumée peut-être trop rapidement et qui aurait pu tomber dans le stéréotype avec, d'un côté, des colons savants et, de l'autre, une petite indienne qui admire les blancs et veut vivre parmi eux. Toutefois, on peut remercier les studios Disney de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir le personnage de Pocahontas dans ce long métrage poétique qui lui rend bien hommage. Et si l'on a critiqué le film pour sa lâcheté, on ne peut néanmoins nier qu'il fait passer de beaux messages de respect et de tolérance, respect de la nature, respect des uns et des autres, respect de la différence. Dès lors, la vraie richesse n'est pas dans l'or que recherchent les colons ou le maïs durement cultivé par les Amérindiens, mais dans le mélange de deux peuples, de deux cultures et ce qu'ils peuvent donner de meilleur. Peindre avec mille couleurs l'air du vent, c'est aimer au-delà de tout préjugé. Le chef Powhatan le résume bien en parlant de Pocahontas. Nous sommes tous animés par la colère de notre cœur, mais elle seule parle de courage et de fraternité. Voilà, vous savez tout ou presque sur notre belle indienne. Je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de l'histoire surprenante des contes de fées.
Ainsi finit bientôt.